France Culture.
Les nuits de France Culture.
Dans la longue histoire de l'astronomie, la découverte des taches solaires par Galilée au début du XVIIe siècle joue un rôle majeur, mais parfois oublié. En ce temps-là, on se représentait la Terre au centre de l'univers. C'était la théorie du géocentrisme, évidemment invalidée depuis. Mais pour invalider cette théorie, il fallait s'attaquer à ses fondements, et notamment le principe de l'inaltérabilité des corps célestes. C'est ce que permit de faire la découverte de ces taches à la surface du Soleil. Cette étape de l'histoire de l'observation de notre univers est restituée par le philosophe Maurice Clavelin dans l'émission que voici, émission qui donne aussi la parole à Elisabeth Nemrib. Au micro de Stéphane Delisgeorges, cette astrophysicienne explore des pistes de recherche plus contemporaines, notamment autour de l'influence des cycles solaires dans l'évolution du climat. Il faut saluer la prudence avec laquelle elle s'exprimait en 1992 pour énoncer des pistes, des théories, largement invalidées depuis lors sur l'origine du réchauffement climatique. Le récit de cette science solaire sur le temps long, de l'époque de Galilée aux hypothèses du début des années 1990, était donc au programme de cette émission, diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 mars 1992.
La science et les hommes.
Les taches solaires de Galilée à aujourd'hui. Petit point d'histoire. Dans le ciel d'Aristote, dans le ciel des péripatéticiens, il n'y a jamais rien de nouveau. Dans les grands systèmes cosmologiques de Ptolémée ou d'Aristote, les cieux sont inaltérables et sans accident. Mais dans l'année 1604 se produit un événement inconcevable. Une étoile, une nouvelle étoile, une nova éclate dans le ciel. Galilée la voit, le ciel n'est donc pas constitué d'une essence inaltérable. Le premier d'une série qui vont avec d'autres éléments. Le livre de Copernic. Sur les révolutions des orbes célestes, évidemment, et qui vont tous éléments faire basculer un monde. Autre élément encore, un instrument. La lunette, bien sûr. On la pointe au ciel, et Galilée voit là des choses extravagantes. Des montagnes, qui profilent leurs ombres sur la lune n'est pas lisse. Il voit aussi des mondes innombrables, les satellites de Jupiter, ce qu'on appelle les planètes médicéennes. Plus tard, cela donne un livre, Le Sidereus Nuncius, le messager céleste, nous sommes en 1610. Son auteur va commencer à sentir le soufre. Mais ce n'est pas cette histoire, cette affaire, qui nous occupe ce matin. Notre affaire, on peut l'introduire par deux extraits de lettres différents. Le premier de ces extraits est du frère Micanzio. Cette lettre est écrite de Venise et son destinataire est Galilée. J'ai une mémoire très claire. Que quand votre seigneurie eut fabriqué ici, à Venise, la première lunette, une des choses qu'elle observa était les taches du soleil. Et je saurais dire le lieu où rendu visible, sur des papiers blancs, vous la montriez au père Serpi. Et je me souviens des paroles qu'ils se dirent. D'abord, c'est une tromperie de l'œil, des vapeurs du milieu, et puis, après avoir refait l'expérience, l'on conclut que le fait apparaissait comme tel et que l'on devait philosopher dessus. Ensuite, vous êtes parti. Second extrait de lettre, c'est une lettre de Galilée cette fois, et nous sommes le 2 juin 1612. Il y a 18 mois qu'en regardant le soleil à son déclin, j'y aperçus des taches très obscures, et en revenant plusieurs fois à la même observation, je m'aperçus qu'elles changeaient de lieu, qu'elles ne se voyaient pas toujours les mêmes ou disposées dans le même ordre, qu'elles étaient quelquefois nombreuses, d'autres fois en petit nombre et parfois aucune. Je fis voir à quelques amis ses extravagances, et l'an passé, à Rome, je les montrai à beaucoup de prélats et hommes de lettres. Le 1er novembre de la même année, 1612, le dominicain Niccolo Lorini, prêchant la fête des morts au couvent Saint-Matthieu à Florence, accuse, pour la première fois, Galilée d'hérésie. Mais encore une fois, ce n'est pas cette histoire que nous retenons ce matin. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux taches du soleil, tout d'abord bien sûr la découverte de Galilée, et puis à ces taches solaires dans l'histoire de l'astronomie et dans, bien sûr, l'actualité de la recherche les concernant aujourd'hui. Avec moi ce matin, Elisabeth Ribe, qui est astronome à l'Observatoire de Meudon, et Maurice Clavelin, professeur de philosophie à la Sorbonne. Maurice Clavelin, c'est Galilée qui les voit le premier en termes d'importance pour l'histoire de la pensée tout court, pour l'histoire de l'astronomie, mais il y a une préhistoire aux observations des taches solaires. Les Chinois les ont vues, semble-t-il, certains Grecs les ont vues. Mais le premier, en tout cas, pour qui la chose va être d'importance, c'est Galilée.
Oui, effectivement. Vous savez, lorsqu'une découverte a eu lieu, c'est une certaine habitude parmi les historiens de chercher des antécédents à cette découverte, et en relisant des auteurs ou des textes plus anciens, parfois il arrive effectivement que des allusions qui étaient passées inaperçues jusque-là prennent brusquement leur sens. Et c'est un peu le cas, c'est vrai, pour les taches solaires, semble-t-il. Vous savez, de même que pour les novas dont vous avez fait, auxquelles vous avez fait allusion il y a un instant, on s'est aperçu aussi que les anciens avaient aperçu parfois une nova, enfin, dans des textes qui nous ont été conservés. Ce sont des allusions très indirectes aussi. Pour les taches solaires, c'est vrai, il y a une allusion, je crois, notamment chez Plutarque, qu'on a retrouvé dans un texte de Plutarque. Mais enfin, tout cela, vous savez, ce sont des notations en passant, et comme elles n'ont eu aucune espèce de conséquence par la suite, bien entendu.
On parle aussi d'une notation dans Virgile, dans les Géorgiques, et semble-t-il aussi que certaines taches auraient marqué en 1807, sous Charlemagne, une tâche très visible.
Oui.
Est-ce qu'on a retenu cette date, Elisabeth Ribe? Est-ce que vous le savez, 1807, non, pour Charlemagne?
Je connais simplement que certains rapports sur les tâches qui ont été faits par les Chinois, mais ils décrivaient les tâches comme des métaphores, et on ne sait pas exactement ce à quoi ça correspondait pour eux.
Pour Esclavelin, en tout cas, Galilée, c'est quand même, oui, de ce point de vue, le découvreur, bien qu'il soit contemporain de deux personnages qui, semble-t-il, l'aient observé aussi.
Oui.
Le père Scheiner, un jésuite.
C'est exact. C'est exact. Oui, écoutez, il est bien sûr, il faut partir de Galilée, avec qui commence vraiment l'histoire scientifique des taches solaires qui nous intéresse. Sinon, nous allons nous perdre dans des considérations un petit peu préliminaires et sans peut-être un intérêt considérable. C'est vrai que c'est Galilée qui a découvert les taches solaires. Donc, mais également, comme chacun le sait, je suppose, pas cette découverte des taches solaires par Galilée constitue aussi la dernière étape d'une série de découvertes toutes plus étonnantes les unes que les autres, auxquelles vous faisiez rapidement allusion en commençant. Et peut-être il serait intéressant, me semble-t-il, pour bien cadrer cette émission, de commencer par une évocation de ce qui certainement a été un des moments les plus extraordinaires dans l'histoire de l'astronomie. Cette histoire, elle commence précisément pour nous en juillet 1609, à Padoue, où Galilée se trouve alors professeur de mathématiques à l'université de Padoue. Je vous rappelle d'ailleurs en passant, bref parenthèse, que 1609 est aussi l'année où paraît l'Astronomia Nova de Kepler.
Oui.
C'est donc la grande année astronomique du XVIIe siècle, à bien des égards, si vous pensez que dans l'Astronomia Nova, Kepler a introduit précisément le premier l'idée de la trajectoire elliptique de Mars. Bien, revenons donc à Galilée en juillet 1609 à Padoue. Galilée reçoit certaines informations par des correspondants des Flandres, en l'occurrence, et ces correspondants lui apprennent que des Flamands, sans autre précision, ont construit un instrument grâce auquel on peut voir des objets éloignés comme s'ils étaient beaucoup plus proches, et même très proches, dit-il. Alors, Galilée, qui est tout à fait stimulé par ces nouvelles, entreprend pour sa part la construction d'un tel instrument. Il l'appelle d'un nom étrange au début, il l'appelle perspicillum en latin, il donne un nom latin, perspicillum. Bien. Et cet instrument, il le décrit lui-même sommairement, un tube de plomb avec une lentille à chaque extrémité, une lentille plan convexe comme objectif et une lentille plan concave comme oculaire. Et grâce à cet instrument, dit-il, grâce à ce perspicillum, eh bien, il reproduit précisément les observations annoncées par les flamands. Galilée est un homme pratique, n'est-ce pas? À peine il a construit son instrument, ceci se passe au mois d'août 1609, il le présente au Sénat de Venise. Conscient que cet instrument pourrait avoir des applications maritimes en particulier, pourrait intéresser la marine de la Sérénissime République. Le Sénat de Venise fait un grand succès d'ailleurs. À Galilée, il y a une scène célèbre au sommet du campanile de la place Saint-Marc, n'est-ce pas, où Galilée montre aux sénateurs étonnés que des bateaux qui se trouvent très loin en mer sont aperçus, enfin, beaucoup plus près. Mais évidemment, le grand moment, c'est l'automne. C'est à l'automne où alors Galilée a, je ne sais comment dire, le génie, l'intuition, n'est-ce pas, de tourner son instrument vers le ciel. Si bien que de ce perspicillum, il fait, en somme, la première lunette astronomique.
Maurice Clavelin, juste une petite parenthèse. Il semble que, quand cet instrument a été mis au point, assez rapidement, il a été connu de la communauté scientifique. Et qu'il y a là deux attitudes. D'abord, il y a une attitude un petit peu de mépris pour cet artefact technique. Et puis aussi, peut-être un refus qui est plus profond. En particulier, j'ai une citation qui est la suivante. « L'autorité des opinions de mille ne vaut pas dans les sciences une étincelle des raisons dans un seul, alors que l'expérience actuelle montre que le soleil est acheté. » On va y arriver tout de suite. Il semble que Galilée, lui, tout de suite, intuitivement, ait compris l'intérêt extrême de cette lunette, alors que pour beaucoup, pour des raisons philosophiques, on pensait qu'il ne fallait pas mettre quelque chose entre la vue, l'œil, qui lui était sûr dans la perception,
oui.
Et cet artefact.
Est-ce que c'est vous êtes tout à fait exact. Et effectivement, enfin, pour autant que on puisse séparer chez ses adversaires, disons, enfin, chez les gens qui refusaient le télescope, les raisons objectives et scientifiques dignes d'être prises en considération, et alors les raisons idéologiques, disons, puisque comme on va l'évoquer naturellement tout à l'heure, le résultat des observations obtenues avec cette lunette remettait en cause tellement d'idées acquises qu'il est très difficile, précisément, de faire la séparation entre les bonnes et les mauvaises raisons qui ont pu jouer. Mais il est vrai que Galilée a eu confiance dans son instrument. Et par exemple, pour évoquer tout de suite un petit point qui est important, n'est-ce pas, il a tout de suite compris que son instrument avait cet avantage de supprimer les radiations et de permettre de voir les corps célestes beaucoup plus nettement, n'est-ce pas, en particulier les étoiles fixes que nous percevons toujours, enfin comme des points brillants avec un petit halo autour. Il les voyait comme des points très nets, très clairs. Et alors, loin de penser que c'était une déformation, n'est-ce pas, de l'état réel de ces corps, il a tout de suite compris, au contraire, qu'il y avait là une amélioration considérable dans les conditions de leur perception, et donc la possibilité d'un départ tout à fait nouveau pour l'astronomie d'observation.
Et alors là, s'enchaînent évidemment beaucoup d'observations.
Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, si nous revenons alors précisément là, à 1610, à l'automne 1610, n'est-ce pas, en l'espace de 3 mois, c'est à peine croyable, en l'espace de 3 mois, Galilée va réaliser la série d'observations la plus inouïe qu'un homme ait jamais fait en un temps aussi bref. Et d'ailleurs, comme il a le souci naturellement de sa priorité, à peine ses observations sont-elles à peu près établies, qu'il les rédige, il les met en forme, et dès mars 1610, et donc très peu de temps après, il fait paraître cet ouvrage intitulé Sidereus Nuncius, c'est-à-dire le messager céleste en traduction littérale.
Le messager des étoiles.
Voilà, qui va assurer du jour au lendemain, évidemment, sa gloire en Europe et qui va avoir un retentissement prodigieux. Alors, dans cet ouvrage, pour résumer brièvement, tout de même, c'est intéressant avant d'en arriver aux taches solaires, dans cet ouvrage, où il n'est pas encore question des taches solaires, notons-le, il exposait 3 découvertes fondamentales qui concernaient respectivement la Lune, certaines planètes et enfin la Voie lactée, vous voyez, du plus proche au plus loin de la Terre. La Lune, vous avez rappelé tout à l'heure effectivement le célèbre analyse de la Lune donnée dans le Sidereus Nuncius, c'est essentiellement l'introduction par Galilée sur la base de raisonnements fort clairs d'ailleurs et fort convaincants, que la surface de la Lune n'est pas du tout lisse et polie comme on le croyait jusque-là, mais qu'elle est couverte, tout comme la Terre, de montagnes, de vallées, enfin, etc. Il essaie même d'évaluer la hauteur de ces montagnes. Oui. Enfin, c'est fort intéressant, bien sûr. Bien. Ensuite, de la Lune, il passe aux planètes. Aux planètes, ce qu'on appelait autrefois les planètes supérieures, n'est-ce pas ? C'est-à-dire essentiellement Jupiter et Saturne, en l'occurrence.
Des planètes alors, externes.
En braquant la lunette sur Jupiter, il perçoit immédiatement des satellites. Alors, il voit vraiment du jour au lendemain ce que jamais on avait vu. Jupiter est entouré de satellites, comme la Terre, par la Lune, n'est-ce pas ? Il en dénombre 4 en son temps, qu'il baptise les planètes médicéennes, enfin pour des raisons bien clairement
politique
compréhensibles.
Politique et de prestige, voilà. Pour la famille Médicis,
voilà,
de Florence, bien sûr.
Voilà, raisons très politiques, n'est-ce pas, bien oui. Sûr. Il songe déjà d'ailleurs à retourner à Florence, naturellement, à ce moment-là, et cette bonne guerre. Et il calcule leur période, même, enfin, il, d'emblée, n'est-ce pas, il essaie de calculer les périodes de révolution de ces planètes. C'est d'ailleurs un point sur lequel il reviendra beaucoup par la suite, et il nous a laissé des tables très longues, très complètes, d'évaluation des périodes de ces planètes. Regardant Saturne, alors il voit également très nettement, sur la gauche et sur la droite de Saturne, des sortes de protubérances. Et il interprète ça assez normalement, en son temps, comme la présence de planètes aussi, comme signifiant la présence de planètes. L'idée des anneaux de Saturne est une idée beaucoup plus tardive, n'est-ce pas ? C'est dans la deuxième moitié du XVIIe siècle seulement, avec des instruments très améliorés. Je crois que c'est Christian Huygens qui est le premier, je crois, a vraiment clairement identifié les anneaux de Saturne. Il ne s'arrête pas aux planètes, naturellement. Il braque ensuite son instrument au-delà des planètes, vers la Voie lactée. Alors là, ce qu'il voit, évidemment, le stupéfie, à proprement parler. La Voie lactée était bien sûr depuis l'Antiquité, hein, dans la littérature antique déjà, les traces abondent, c'est un sujet de grand étonnement depuis toujours pour l'humanité.
Cette grande trace blanche dans le ciel.
Voilà, et alors tout le monde finalement, sans savoir exactement ce que c'était, mais tout le monde s'accordait en gros pour y voir une espèce de grande traînée lumineuse, vous voyez, une sorte d'écharpe de lumière qui était en quelque sorte attachée à la sphère des fixes. Que cette sphère supposée sur laquelle se trouvaient, soi-disant, les étoiles. Or, Galilée découvre, lui, que cette apparente traînée lumineuse n'est que l'effet produit par une accumulation prodigieuse d'étoiles.
Voilà les mondes innombrables.
Voilà, exactement. Alors, des étoiles, non seulement elles sont innombrables, effectivement, impossible de prétendre les compter, mais alors ce qui est non moins important, vous voyez, un amas d'étoiles s'étendant de toutes parts. S'étendant de toutes parts, sans terme perceptible, et surtout impossible à distribuer sur une surface sphérique qui marquerait les limites du monde. Ce qui éclate à ce moment-là, c'est le monde fini.
Oui.
Et vraiment, la découverte de la Voie lactée, la vraie nature de la Voie lactée pour Galilée, est un moment essentiel, absolument. C'est aussi important que toutes les autres découvertes, vous voyez, pour la perception même du monde et les conséquences philosophiques qui vont s'en suivre.
Alors on peut peut-être en souligner une tout de suite, d'ailleurs, puisque là, d'un seul coup, c'est Giordano Bruno qui a raison et qui s'est fait brûler pour rien, si je puis dire, puisqu'il avait parlé des mondes infinis, et les voilà, ces mondes infinis, d'une certaine façon.
D'une certaine façon, c'est vrai que ce que voit Galilée, oui, donne un sens, n'est-ce pas, à ce qui n'était que pure spéculation. Jusque-là, il faut bien le dire, Bruno qui avait évoqué ces mondes infinis, n'est-ce pas, depuis lesquels la Terre ou le système solaire, disait-il même, serait vu comme une tête d'épingle,
oui.
Enfin, etc. Ces mondes, oui, prennent corps d'une certaine façon. Je noterai quand même que Galilée, qui est prudent, n'est-ce pas, Galilée qui est prudent, à la fois pour des raisons politiques ou religieuses, mais qui est prudent scientifiquement aussi, n'a jamais conclu que le monde était infini, n'est-ce pas ? Dire que le monde est infini, ça dépasse tout à fait nos capacités d'observation. Effectivement, l'observation ne nous permet pas de dire que le monde est infini. Simplement, c'est indéfini, n'est-ce pas ? Mais il n'en est pas moins vrai que dans ce monde indéfini, l'idée d'une pluralité de systèmes, au moins semblables au système solaire, est une idée parfaitement plausible.
Recevable, bien sûr.
Bien entendu.
Et pour fermer cette parenthèse encore, et pour montrer justement le contraste avec ces découvertes importantes faites par un seul homme, En ce qui concerne les satellites des Médicis, là encore, il était, si l'on admet le schéma ptoléméen, si on admet la cosmologie aristotélicienne, il n'était pas concevable de trouver d'autres petits corps, d'autres planètes comme ça. Le nombre était arrêté.
Oui. Évidemment, on peut dire que, a priori, rien ne s'y opposait probablement. Mais le fait que la vision aristotélicienne, ptoléméenne du ciel était fondée avant tout sur la perception naturelle, excluait naturellement que de tels systèmes qui n'avaient jamais été vus depuis un temps immémorial puissent être conçus. Et là, c'est une rencontre, évidemment, qui caractérise tout à fait, enfin, ce qu'on appelle parfois la science avant Galilée, la science traditionnelle, n'est-ce pas? C'est cette sorte de confusion entre la possibilité réelle et puis ce que la perception naturelle montre, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Oui. Galilée va précisément, un des sens de l'œuvre de Galilée va être de rompre cette association, naturellement.
C'est toujours beau les débuts, Elisabeth Rive, non? Ce solum comme ça fait envie, non? Vous auriez, c'est intéressant pour un astrophysicien comme c'est ça certain, d'accumuler les découvertes. Hein, quelle chance!
Et c'est certain que la période qui a suivi après Galilée a été peut-être une période, disons, plus intéressante pour l'astrophysicienne solaire que je suis, parce que ces gens-là ont fait à ce moment-là des observations systématiques. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'assister sur la valeur de ces grandes séries.
Nous y assisterons. Maurice Clavelin, donc on a vu l'inventaire des innombrables découvertes dans le Messager Céleste, c'est maintenant 1610, 1611.
Voilà, alors 1610, le Sidereus Nuncius est paru, Galilée n'arrête pas pour autant ses observations, naturellement, et la série extraordinaire de découvertes qu'il avait fait, naturellement, les mois précédents, va se compléter par deux nouvelles découvertes non moins étonnantes, qui vont être acquises d'ailleurs à peu près en même temps, c'est-à-dire à l'automne 1610 et en 1611. La première de ces nouvelles grandes découvertes concerne Vénus. Concerne Vénus dont Galilée découvre les phases. C'est la première fois où on observe que Vénus possède des phases, n'est-ce pas, vue de la Terre. Et Galilée, s'il n'écrit pas un livre spécial pour communiquer cette découverte, c'est néanmoins la faire connaître par des lettres largement diffusées et qui établissent clairement, bien sûr, sa priorité. Quant à la deuxième des grandes découvertes, des grandes nouvelles découvertes de 1610-1611, bien sûr, ce sont les taches solaires auxquelles nous arrivons donc maintenant. Avec les phases de Vénus, c'est même la découverte de Galilée sur laquelle nous possédons le plus de détails. Le plus de détails grâce à la correspondance qu'il a toujours abondamment entretenue, mais grâce aussi aux trois lettres sur les taches solaires qu'il écrira durant l'année 1612 à un de ses correspondants allemands, Marcus Welser, et qu'il publiera sous la forme d'un petit volume en mars 1613. Et ces lettres racontent véritablement de façon extrêmement précise et détaillée ce qu'on peut appeler, si vous voulez, l'aventure des taches solaires. Pour nous, en quelques mots, pour bien situer l'événement, c'est dans les derniers mois de 1610 dès les derniers mois de 1610 que tout commence pour Galilée. Il remarque alors, un peu par hasard, il faut bien le dire, la présence de taches sombres sur la surface du soleil. Il les fait voir, même à ce moment-là, ça l'intrigue, bien entendu. Mais il est tellement occupé par des multitudes de tâches, et notamment par l'observation de Vénus, qu'il mène très méthodiquement à ce moment-là, qu'il ne pousse pas plus avant l'observation du soleil. Quelques mois plus tard, donc en 1611, et grâce à son correspondant allemand, Marcus Welser, il apprend qu'un Hollandais, Fabricius, et un jésuite allemand, le père Scheiner, ont remarqué eux aussi ces tâches et les observent. Il reprend donc ses propres observations durant l'année 1611, mais là encore sans trop se presser. En janvier 1612, Welser lui communique le texte de trois lettres sur les tâches solaires écrites par le père Scheiner et résumant les observations que le père Scheiner lui-même avait pu faire. Et c'est pour Galilée le stimulus décisif. Il renoue alors avec ses observations, les met en ordre et en élabore surtout une interprétation très complète qu'il développe à son tour dans trois lettres adressées à Marcus Welser entre mai et décembre 1612 et qu'il publiera donc un peu plus tard en 1613.
Sous forme de livre, ce sera un livre.
Voilà, ce qu'il dit dans ses lettres, on peut le dire tout de suite, ne doit rien à Scheiner, n'est-ce pas? Ne doit rien à Scheiner, c'est certain, c'est du pur Galilée, et c'est même, peut-on dire, du Galilée génial. C'est un texte où la rigueur fait bon ménage avec l'audace. C'est un texte où l'analyse raisonnée des observations n'empêche pas les intuitions. Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure, les intuitions les plus étonnantes. Bref, c'est un texte où Galilée apparaît ainsi qu'il s'appelle lui-même, d'ailleurs c'est une dénomination qu'il aime à se donner à ce moment-là, où il apparaît pleinement comme un astronome philosophe, dit-il. Un astronome philosophe, par opposition bien entendu à ce qu'on appelait traditionnellement le mathematicus, c'est-à-dire l'astronome géomètre, l'astronome calculateur, exactement. Et il veut dire par là, bien sûr, qu'il est, lui, Galilée, un astronome maître de ses choix, et pas un astronome qui n'a pas à recevoir des autres, c'est-à-dire, en l'occurrence, à l'époque, des philosophes. Les principes qui doivent guider sa représentation du monde, mais un astronome qui doit, au contraire, à partir de ce qu'il voit, vous voyez, de ce qu'il juge le plus plausible, élaborer les propres principes de sa représentation du monde. Alors là, c'est vraiment un des plus beaux textes de Galilée, très certainement, n'est-ce pas, un des plus vivants, en tout cas un des plus spontanés.
Je vous propose un extrait, justement, que je trouve très beau, parce que c'est toujours beau quand on décrit les choses, et qui d'ailleurs montre donne un indice aussi de la discussion avec le père Scheiner concernant la nature exacte de ses tâches. Galilée écrit « Des masses très grandes, qui, en des temps très courts, se produisent et disparaissent, qui durent plus ou moins longtemps, qui se distendent et se condensent, qui facilement changent de figure, qui sont en certaines parties denses et opaques, et en d'autres le sont moins. De telles masses ne ressemblent à rien d'autre près de nous qu'aux nuages. » C'est l'idée. Mais il est, en tout cas, lui, Galilée, persuadé que ces taches solaires appartiennent au soleil.
Ah oui, bien sûr. Ça, c'est un point très important et on verra dans un instant, n'est-ce pas? Tout le mal que Galilée a eu précisément
pour imposer cette idée,
ce point, bien entendu.
Alors qu'est-ce qu'on peut concevoir comme première hypothèse? D'abord, encore une fois, c'est une chose absolument inattendue, puisqu'il fallait imaginer un être du ciel dans la cosmologie aristotélicienne qui soit alors parfaitement inaltérable, puisqu'on va parler même concernant ces tâches solaires et des adversaires de ces tâches solaires d'une injure faite au soleil à cause de ces tâches. Donc il faut comment est-ce qu'on peut montrer l'importance de cette découverte là toujours dans ce cadre? C'est presque un attentat et observationnel et métaphysique, si je puis dire.
Oui, bien sûr, pour
Forcer les choses et forcer l'image.
Pour ceux qui voyaient le monde, qui continuaient à voir le monde dans la perspective ancienne, bien sûr, la présence de taches sur le soleil est un tel défi que leur réaction normale fut de chercher par tous les moyens à résorber, si je puis dire, ces observations et à les neutraliser. Effectivement.
Et Galilée est moqueur et dit sans arrêt, là, les péripatéticiens vont avoir beaucoup de mal.
Oui,
cette
ils vont
fois.
Beaucoup de mal. C'est certain, et beaucoup plus de mal, dit-il, notamment qu'avec la Nova de 1604, n'est-ce pas? Après tout, la Nova de 1604, elle a fini par disparaître. Alors, tant qu'elle était là, beaucoup ont été dans les tourments, dit-il. Mais le jour où elle est disparue, ils ont repris leur tranquillité d'esprit, et puis c'était qu'un mauvais moment à passer. Alors qu'avec les taches solaires, dit-il, là, ils n'ont pas fini, n'est-ce pas, de souffrir. Alors, pour en revenir au alors, problème que Galilée a pris très au sérieux, bien entendu, car il se trouvait confronté brutalement à une polémique très violente de la part des défenseurs de l'ordre céleste traditionnel. Et il n'a pas esquivé le débat. Alors, véritablement, il est entré dans le débat avec une violence extraordinaire immédiatement, n'est-ce pas? Par la suite, il sera beaucoup plus prudent après ses déboires de 1616, etc.
Oui.
Mais en
1611,
1612, alors, il est plein de flammes, plein d'énergie, n'est-ce pas, dans le mouvement de ses découvertes. Et alors, il est persuadé, naturellement, de ce qu'il dit. Les philosophes, ce qu'on appelait les philosophes, entre guillemets, à l'époque, c'est-à-dire les tenants, mettons, de l'aristotélisme officiel, enfin, cette doctrine qui n'est pas du pur aristotélisme, d'ailleurs, hein, qui est de l'aristotélisme réaménagé, transformé au XIVe siècle, enfin, au XIIIe et au XIVe siècle, et qui a subi une longue transmission universitaire depuis. Mais enfin, qui existe comme une doctrine très cohérente, d'ailleurs, parfaitement structurée, à l'époque de Galilée encore. Les tenants de cette doctrine ont avancé plusieurs arguments, bien sûr, contre les taches solaires. Le plus important de ces arguments pour Galilée, enfin, c'est celui qu'il discute d'ailleurs à fond, car c'est celui, semble-t-il, qui doit être écarté à tout prix. Le principal de ces arguments était que les taches solaires seraient des corps célestes, bien sûr, demeurés inconnus jusqu'ici, mais situés sur un orbe transparent, concentrique au soleil et tournant régulièrement autour
de lui, oui.
De celui-ci. Donc, ce serait bien des corps. Il n'allait pas jusqu'à nier, n'est-ce pas, la réalité de ces corps, mais en les éloignant suffisamment du soleil, en quelque sorte, on complétait le peuplement, si je puis dire, du ciel traditionnel, mais sans avoir à le remettre en cause dans ses principes fondamentaux. Galilée va développer contre cette hypothèse une argumentation extrêmement serrée et qu'il n'est pas possible, pour les raisons que vous imaginez, bien entendu, de reproduire ici et de rapporter. Simplement, on peut en donner naturellement le résultat qu'il a établi d'une manière que toute l'Europe savante d'alors a jugé parfaitement concluante, n'est-ce pas ? Galilée montre, par toute une série d'arguments, que loin d'être des corps stables, vous voyez, tournant à distance autour du Soleil, ou même des agglomérats de corps stables, les taches ne peuvent être, au vu de ce que l'observation nous apprend, les taches ne peuvent être que des phénomènes physiques, liés à la surface même du Soleil. Il insiste beaucoup là-dessus, liés à la surface même du Soleil. Alors là, il hésite, soit immergé dans sa masse. Il évoque l'hypothèse très clairement, soit immergé dans la masse du Soleil, soit immédiatement contigu à la surface du Soleil. Et c'est finalement cette dernière hypothèse qui va s'arrêter de préférence, les comparant plutôt aux nuages terrestres. Mais enfin, tout cela reste un peu hypothétique. Mais surtout, alors, le plus important, c'est qu'il l'établit clairement et il insiste beaucoup sur le fait que ce sont des phénomènes transitoires. Des phénomènes transitoires. Vous voyez, les taches naissent, évoluent, se transforment, puis disparaissent. Bref, dans le langage de l'époque, vous voyez, et notamment le langage des philosophes, ce sont d'authentiques phénomènes de génération et de corruption. C'est là véritablement l'idée que Galilée établit. Et par une multitude d'arguments, tous convergents, et qui lui permettent évidemment de faire table rase de l'interprétation des péripatéticiens de l'époque.
Eh oui. Citation encore, parce qu'il y a une sorte de, de verve dans Galilée, qui est analogue d'ailleurs à la verve que l'on retrouve dans les lettres de Machiavel. Est-ce que vous êtes d'accord avec
c'est la tradition florentine, oui. Enfin, d'une certaine manière, c'est l'esprit florentin, la vivacité d'esprit florentine, le beau style florentin aussi, que Galilée partage pleinement. Galilée est non seulement un illustre savant, c'est un styliste admirable. Quand on a la chance de pouvoir lire les œuvres de Galilée directement, c'est un régal stylistique.
Certainement. Alors, citation encore, toujours c'est une lettre qui date de 1612 et qui est adressée à Chessy, de la part de Galilée. « Je présume que cette nouveauté, les tâches, doivent être l'enterrement, ou plutôt le suprême et dernier jugement de cette pseudo-philosophie dont on a déjà vu des signes dans les étoiles, la lune, le soleil. Et je m'attends à entendre de grandes choses des péripatéticiens pour le maintien, de l'immutabilité des cieux, laquelle, je ne sais où elle pourra être sauvée et cachée, puisque le soleil lui-même nous le montre dans des expériences très évidentes. D'où j'espère, conclut Galilée, avec donc toujours cette effronterie d'esprit libre, d'où j'espère que les montagnes de la lune se convertissent en une plaisanterie et en un chatouillement sous le front des nuages, des vapeurs et des fumées qui, sur la face du soleil, se produisent, se meuvent et se dissolvent continuellement. Je crois que c'est exactement ça.
C'est bien ça. Oui, c'est tout à fait ça.
Est-ce que... il va faire beaucoup de relevés. Il y a en particulier chaque fois un grand souci méthodologique chez Galilée.
Oui, oui. Alors
et
là,
sur cette feuille blanche que l'on met, on peut peut-être dire à cette occasion, je crois qu'il faut être prudent pour les gens qui nous écoutent et qui aiment faire de l'observation astronomique, qu'il ne faut surtout pas regarder le soleil directement dans une lunette. Oui. Et qu'il faut, au bout de cette lunette, mettre un papier blanc. En tout cas, Galilée prend l'habitude de faire un cercle, une circonférence sur son papier. Oui, oui, et va commencer à marquer et faire le premier, une sorte de cartographie des figures
oui,
de ces tâches.
Oui, bien entendu, c'est le premier problème que Galilée a dû résoudre. Il a été aidé d'ailleurs beaucoup dans ses observations par un de ses élèves, qui a laissé lui-même un nom important dans l'histoire des sciences de l'époque, Castelli, Benedetto Castelli, n'est-ce pas, qui était un des élèves préférés de Galilée, et qui l'a beaucoup aidé dans ses observations. Oui, alors il a naturellement tout de suite, il ne s'est pas hasardé à regarder le soleil avec sa lunette, bien entendu. Le dispositif tel qu'il le décrit, l'idée générale était la suivante, n'est-ce pas, il braquait la lunette vers le soleil, naturellement, et il recueillait sur une feuille blanche, placée à la distance convenable, l'image du soleil projetée à travers la lunette. D'après ce qu'il dit, je n'ai pas, vous vérifiez naturellement.
Vous n'avez pas refait la
lunette
de Galilée.
Je n'ai pas refait l'expérience, n'est-ce pas ? Alors, il nous dit que là, l'image était suffisamment nette, n'est-ce pas, pour distinguer la surface du soleil et les taches principales, enfin au moins, qui se trouvaient alors sur la tache du soleil. Alors, il procède immédiatement, n'est-ce pas, au relevé de ce qu'il voit. Alors, de jour en jour, ce qui compte, évidemment, c'est la répétition régulière de ces observations. Et nous avons conservé, d'ailleurs, ces observations dans les archives Galilée à Florence, n'est-ce pas ? Elles sont très nombreuses, très importantes. Et effectivement, on peut suivre sur les dessins qu'il a laissés, de jour en jour, le mouvement, l'évolution, le déplacement des tâches principales qu'il observait. C'est déjà du très beau travail scientifique, de ce point de vue-là, enfin fait avec les moyens de l'époque. Ces observations, d'ailleurs, étaient tout de même suffisamment précises aussi pour avoir permis à Galilée de faire deux constatations tout à fait remarquables. D'une part, il a très nettement vu que les taches traversent la surface du Soleil en 2 semaines environ, en 2 semaines environ. Et d'autre part, il a très nettement pu remarquer que les trajectoires de ces taches sont, selon les moments de l'année, ou bien légèrement obliques, ou bien non obliques, mais alors tantôt, selon le moment de l'année, incurvées vers le bas, tantôt incurvées vers le haut.
Alors, qu'est-ce à dire ?
Ça lui a posé naturellement tout de suite un problème assez délicat. Et raisonnant sur ces observations, il a introduit avec son audace habituelle deux hypothèses. D'une part, il a introduit l'idée d'une rotation du soleil sur lui-même en un peu moins d'un d'un mois.
Oui, il parle d'un mois lunaire, je crois, à peu près.
Oui, c'est ça, à peu près. Et d'autre part, alors, il a introduit l'idée, n'est-ce pas, que ce mouvement s'accomplit sur un axe légèrement incliné sur le plan de l'écliptique, mais toujours dirigé vers la même région du ciel, ce qui lui permettait d'expliquer, n'est-ce pas, enfin, selon, c'est très compliqué, il a expliqué ça, non pas dans les lettres sur les taches solaires, mais beaucoup plus tard, dans le célèbre Dialogo de 1632, dans la troisième journée du dialogue sur les deux plus grands systèmes du monde, de 1632, il lui a fallu sans doute pas mal de temps pour élaborer cette thèse, et il a expliqué là, avec beaucoup de détails, comment, si l'on prête d'une part au Soleil une rotation sur lui-même en un peu moins d'un mois, et si l'on incline légèrement l'axe autour duquel a lieu cette rotation, on peut rendre compte alors de tous les détails présentés par l'observation des taches solaires.
Il devint un auteur célèbre, il était de tous les galas, et les autres jours ce gala cherchait au bout de ses lèvres des petits bouts de chansonnette. Ça lui donnait mal à la jambe, car il frappait du pied pour battre la mesure, et ses nouveaux souliers avaient une pointure un peu trop étriquée qui étriquait son caquet.
Est-ce que là, on peut peut-être maintenant aborder l'interprétation de Galilée concernant ces taches.
Effectivement, car les lettres sur les taches solaires ne se bornent pas à rapporter les observations. Galilée, le grand apport de ces lettres, c'est l'interprétation que Galilée en propose et qui est la première interprétation donnée dans l'histoire de l'astronomie ou de l'astrophysique, puisque le problème relève évidemment de ce que nous appelons aujourd'hui l'astrophysique. Bien, on peut dire que ce souci déjà si remarquable de méthode qui apparaissait au moment de l'observation et les soins pris par Galilée, ce souci réapparaît pleinement dans l'interprétation. Et Galilée, lorsqu'il construit sa propre interprétation des taches solaires, à travers la réfutation des autres thèses aussi, fait montre véritablement invente véritablement une méthode nouvelle pour aborder et discuter ce type de problème, et qu'on pourrait résumer d'un mot peut-être en la qualifiant de géométrisation, méthode géométrisatrice. Cette méthode, n'est-ce pas, en un mot, elle consiste à intégrer les taches solaires dans une construction géométrique par assimilation du Soleil à une sphère tournant autour d'un axe. Grâce à cette assimilation, et par des procédés que là encore je ne peux pas évidemment décrire en détail, vous le comprenez bien, les variations notées dans les distances entre les taches au fil des jours, car c'est ça le support principal de l'argumentation de Galilée, c'est la variation des distances entre
son repère,
les taches,
oui,
notées au fil des jours. Ces variations prennent alors leur pleine signification. Et en comparant les données de l'observation réelles, recueillies, avec ce que seraient les données de l'observation si les taches étaient situées à une distance importante de la sphère du Soleil, Galilée montre véritablement de façon extrêmement précise que ces taches ne peuvent être que contiguës à la surface du Soleil. Mais ça, il n'y parvient que grâce à cette sorte de construction d'un modèle géométrique, voyez, dans lequel les données de l'observation sont intégrées et prennent alors à ce moment-là toute leur portée. En somme, on peut vraiment dire que Galilée inaugure dans ses pages célèbres, notamment dans la deuxième lettre sur les taches solaires, une nouvelle façon de recueillir et d'utiliser l'observation. Il nous montre comment extraire de l'observation, voyez, après l'avoir muni de ce qu'on pourrait appeler une structure rationnelle, comment en extraire des informations, vous voyez, qui au premier abord n'étaient pas décelables et qui vont se révéler, bien sûr, décisives pour la suite.
S'il faut faire le schéma, je vous interromps juste un instant, Maurice Clavelin. Il y a d'abord donc l'évidence perceptive, si je puis dire, de ces tâches, avec cet artefact qu'est la lunette. On voit ça. La chose est inattendue. Mais évidemment, ça se profile un petit peu dans ce que vous dites, l'idée du MIN, si je puis dire, d'une sorte de primat du théorique aussi, c'est-à-dire de la conception anticipatrice pour mieux observer.
Bien sûr.
Est-ce que ce jeu-là est parfaitement illustré dans ce que vous dites ?
Bien sûr, absolument.
Le fait d'observation, une conception théorique, et qui va alimenter, cadrer, enrichir ce qu'on aura à observer ensuite.
Bien sûr, ce que Galilée invente, c'est l'observation scientifique à proprement parler, n'est-ce pas ? C'est ce que, oui, vous avez parlé de Duhem, oui, c'est l'observation imprégnée de théorie dont parle Duhem, enfin, dans ses livres, n'est-ce pas ? C'est cela, c'est... Alors, je ne dis pas que, naturellement, on ne pourrait pas trouver des antécédents en remontant dans l'histoire des sciences sur certains points très précis, c'est vrai, mais, en tout cas, s'agissant des corps célestes, Galilée est certainement le premier qui a mis cette méthode en application. Il en donnera bien d'autres exemples, d'ailleurs, par la suite, hein, dans le dialogue de 1632, dans les discours et démonstrations mathématiques de 1638. Mais les tâches solaires ont la priorité ici, très certainement, car c'est quand même le premier grand livre de fond publié par Galilée. Le Sidérus Nuncius était quand même un livre, évidemment, très important par ce qu'il apprenait, mais qui se bornait à rapporter les découvertes, qu'il ne les interprétait pas aussi, de manière aussi élaborée et avec un tel appareil méthodologique. Les lettres sur les tâches solaires mettent vraiment en œuvre un appareil méthodologique tout à fait étonnant. N'oubliez pas quand même, on ne l'a pas dit jusqu'ici, mais c'est important, Galilée en 1612 n'est plus un débutant. Et c'est plus un débutant, c'est un homme mûr. C'est un homme mûr, il a en 1612, il a 47 ans, je crois, ou 48 ans, n'est-ce pas ? C'est donc un homme au fait de ses possibilités, de ses facultés mentales, et qui maîtrise parfaitement non seulement ce qu'ont écrit ses prédécesseurs, mais qui a eu le temps de mettre au point aussi une démarche originale, déjà une démarche méthodologique originale. Alors là, on la voit véritablement arriver au premier plan dans les lettres sur les tâches solaires et brusquement se révéler.
Est-ce qu'on peut considérer aussi que, du fait de la compréhension nouvelle maintenant de la rotation du Soleil sur lui-même, qu'il y a là une analogie avec la rotation de la Terre sur elle-même et un des éléments du dispositif pour établir, faire comprendre, assimiler, prouver l'héliocentrisme, la théorie de Copernic. Est-ce que dans les tâches solaires, on peut voir de façon un peu dérivée une preuve encore s'il était nécessaire de...
Oui, alors les tâches solaires, bien sûr, vont jouer un rôle très important dans l'argumentation pro-copernicienne de Galilée, mais pas, disons, sous une forme
directe,
mécanique, n'est-ce pas ? Pas par l'hypothèse, pas par l'intermédiaire de l'hypothèse de la rotation prêtée au Soleil, vous voyez. Non, Galilée ne s'appuie pas du tout là-dessus. C'était très intéressant, et si vous me donnez quelques...
Je vous en prie,
je
vous
en prie. Je peux en effet faire le point aussi sur cette question... qui n'est pas simple, c'est vrai. Tous nos auditeurs, bien sûr, savent qu'une des grandes ambitions de Galilée a été d'établir la vérité de l'héliocentrisme, la vérité physique, j'entends, de l'héliocentrisme, ce qui, naturellement, dans le contexte de l'époque, voulait dire faire accepter l'héliocentrisme de préférence au géocentrisme comme la bonne théorie pour le système du monde. Or, le problème que rencontrait Galilée était très exactement le suivant. Et nous devons faire aujourd'hui un effort, naturellement, pour le comprendre. Le géocentrisme, à l'époque de Galilée, en 1612, l'époque où nous sommes, avait sur l'héliocentrisme, donc le système défendu, introduit par Copernic et Kepler, le géocentrisme avait sur l'héliocentrisme cette supériorité d'être lié directement à une cosmologie bimillénaire, puisque finalement elle avait été élaborée conceptuellement par Aristote, dans son traité du ciel et qu'elle avait été acceptée depuis par tous les astronomes, par Ptolémée, tout le premier, n'est-ce pas? Ouvrez la syntaxe mathématique de Ptolémée, dès les premières pages, Ptolémée accepte les postulats fondamentaux de la cosmologie géocentrique aristotélicienne.
La Terre est au centre du monde,
voilà, la Terre
et
est
tout
au
tourne
centre,
autour
la Terre est au centre. Ouais. Alors, des prémices de cette cosmologie, qui est une construction très compliquée, très élaborée et très cohérente, et qui mériterait à elle seule, évidemment, un long examen, n'est-ce pas ? Des prémices de cette cosmologie découlaient nécessairement. C'est-à-dire, si vous en acceptiez les prémices, nécessairement, vous étiez conduit ensuite à accepter, d'une part, le géocentrisme, et d'autre part, le géostatisme. Car il faut distinguer aussi les deux choses. À la limite, on peut être géocentriste, sans être, bien entendu, géostatique.
La Terre peut tourner en étant au centre.
La Terre peut simplement avoir une tourner rotation
sur
sans changer de lieu.
Bien sûr. Pas.
Mais, en fait, le géocentrisme a été lié intrinsèquement au géostatisme en vertu des prémices de cette cosmologie. Bien. Et la prégnance de cette cosmologie était telle, grâce à son degré de cohérence, grâce aussi à son bon accord pour l'essentiel avec l'observation, avec ce que l'on voit, avec le ciel tel qu'on le voit à l'œil nu, qu'il était vain certainement d'espérer pouvoir imposer la vérité de l'astronomie nouvelle, l'astronomie héliocentrique, sans commencer par détruire cette cosmologie, sans commencer par la réfuter. Le problème de Galilée, par conséquent, et c'est ce que les modernes, évidemment, ne voit pas toujours, bien sûr, ça c'est un problème historique, mais combien important pour apprécier correctement l'entreprise même de Galilée. Le problème de Galilée n'était donc pas seulement de montrer que l'héliocentrisme est, en raison de sa plus grande simplicité, en raison aussi de son pouvoir heuristique supérieur, une meilleure théorie scientifique que le géocentrisme. Le problème de Galilée, il était d'abord, voyez, pour que la comparaison scientifique, précisément, entre le géocentrisme et l'héliocentrisme puisse être instituée, le problème de Galilée, il était de commencer par disqualifier le support cosmologique dont bénéficiait le géocentrisme et bien que sûr n'avait pas le copernicianisme, l'héliocentrisme. L'héliocentrisme était une théorie sans cosmologie. C'est cela qui était très important aussi à l'époque. Et c'est ici, bien sûr, que les taches solaires vont jouer un rôle décisif. Pourquoi ? Eh bien, pour la raison suivante, n'est-ce pas ? La cosmologie traditionnelle, à laquelle on vient de faire allusion, n'avait pas en effet pour seule conséquence, à l'échelle du monde, le géocentrisme, couplé au géostatisme. Elle impliquait aussi, et de manière non moins nécessaire, une fois que l'on admettait ses prémices, elle impliquait aussi ce que l'on peut appeler l'hétérogénéité physique du monde, c'est-à-dire une thèse selon laquelle la Terre et les corps célestes, ceux-ci à partir de la Lune, sont substantiellement différents.
Alors que la Terre,
et oui, alors que la Terre et les corps qui s'y trouvent sont constitués des quatre éléments, que sont la Terre comme élément, l'eau, l'air et le feu.
Et le feu.
Les corps célestes, eux, sont faits d'un élément radicalement différent, le fameux cinquième élément, n'est-ce pas, qu'on baptisait éther,
éther
aussi, volontiers, vous voyez, et dont les caractéristiques principales, pour des raisons qu'on n'a pas à examiner ici, mais qui sont évidemment développées très minutieusement par Aristote, notamment dans son traité du ciel, dont les caractéristiques principales sont l'inaltérabilité, l'incorruptibilité, l'immutabilité. Et cette doctrine s'accordait, elle aussi, assez bien avec ce que nous, l'homme voyait depuis toujours dans le ciel. Bon, maintenant, si nous nous mettons à la place de Galilée, en 1611-1612, il découvre les taches solaires, il les interprète de manière méthodique. Et cette interprétation le convainc qu'il s'agit bien, sans aucun doute, de phénomènes de génération et de corruption.
Et de corruption.
Alors, l'argument tant recherché, vous voyez, était maintenant à sa portée, était enfin à sa portée. Et il l'a immédiatement perçu, bien entendu. Car que pouvait signifier l'existence de ces taches, sinon, bien sûr, la fausseté de la deuxième conséquence nécessaire de la cosmologie traditionnelle, c'est-à-dire l'inaltérabilité des corps célestes. Or, bien sûr, un simple raisonnement de logiciens, et Galilée était un bon logicien, et tous les gens de l'époque étaient de bons logiciens, n'est-ce pas ? Tout le monde savait naturellement que la fausseté du conséquent entraîne inévitablement celle de l'antécédent, oui. N'est-ce pas ? Bien entendu, par conséquent, en réfutant, et sur le terrain de l'observation, pas par des arguments a priori, qu'on peut toujours discuter sans fin, mais sur le terrain de l'observation, en réfutant donc l'hétérogénéité de la Terre et des corps célestes, les taches solaires portaient le coup fatal à la cosmologie ancienne, support privilégié du géocentrisme à l'époque. Voyez. On peut donc dire, et je peux conclure, vous voyez ce développement un peu long, je m'en excuse, n'est-ce pas,
non, là-dessus, non, on peut absolument donc dire, passionnant.
On peut donc dire, sans exagération, que dans l'entreprise de justification du copernicianisme de Galilée, les taches solaires ont vraiment joué un rôle clé, n'est-ce pas ? Car c'est d'elles, bien plus que des montagnes de la Lune ou des satellites de Jupiter, vous voyez, c'est d'elles qu'est venu l'argument qui, en ruinant définitivement l'ancienne cosmologie, faisait enfin du géocentrisme une théorie astronomique comme les autres, et le mettait à la portée de Galilée. Car naturellement, il n'avait aucun doute sur l'issue d'une comparaison à armes égales, si je puis dire, entre l'héliocentrisme et le géocentrisme. Mais tout le problème, c'était précisément d'instituer cette comparaison à armes égales, entre géocentrisme et héliocentrisme. Et là, les taches solaires, miracle donné à Galilée par la perception du ciel, il l'a reçu comme cela, d'ailleurs, il l'a compris comme cela, lui donnait enfin cet argument qui allait lui permettre, il en fut persuadé, n'est-ce pas, de faire accepter par tout esprit normalement constitué la vérité du copernicianisme. Il s'est leurré, comme tout le monde le sait, n'est-ce pas, mais là pour des raisons qui n'ont plus rien de scientifique, bien sûr.
Alors là encore, juste pour conclure cette partie, une petite citation, toujours de Galilée, où on voit son persiflage et sa malice. Elle concerne évidemment la thèse de l'immutabilité des cieux, c'est-à-dire cette physique très particulière qui concerne, dont vous venez de parler, Maurice Clavelin, et qui concerne donc la physique au-delà de la Lune, et par distinction avec la physique sublunaire, celle qui concerne celle qui se fait sur la Terre avec la corruption et la génération. Galilée écrit « Si ce qui est appelé corruption est annihilation, les péripatéticiens auraient quelque raison de lui être ainsi ennemi. Mais si ce n'est qu'une mutation, cela ne mérite pas une telle haine. Il ne me semble pas que quelqu'un d'esprit raisonnable se morfonde dans la corruption de l'œuf, alors que dans celui-ci s'engendre le poussin. » Elisabeth Ripp, ça fait presque une demi-heure que je vous vois écouter avec une attention très très soutenue les propos de Maurice Clavelin. C'est encore une fois toujours passionnant les débuts, non ? Et cette grande affaire quand même dans l'histoire de l'astrophysique, les taches solaires, encore une fois élément de l'attentat métaphysique et théorique, non ?
Alors justement, moi j'avais remarqué que plus de trois siècles plus tard, les taches jouent un rôle encore clé dans la compréhension du Soleil et dans la compréhension du cycle solaire dont on va certainement parler, et probablement dans les relations avec le climat. Et je suis très contente de l'entendre.
Elisabeth Ribb, vous admirez évidemment l'œuvre de Galilée, mais vous disiez là juste pendant la coupure musicale que vous aviez envie, pas pour agacer Maurice Clavelin, mais peut-être pour restaurer une autre vérité, de montrer le rôle intéressant du père Scheiner concernant l'observation des taches solaires.
Effectivement, si Galilée a observé avec un très très grand soin les taches solaires, je pense que son observation systématique n'a pas dû dépasser une année. Et une année, pour un astronome solaire, c'est vraiment très, très insuffisant. En revanche, le père Scheiner nous a laissé des documents qui couvrent certainement plusieurs années, voire peut-être plus de 10 ans. Et ces observations, il a fait tout de même une grande découverte qui est parue complètement inaperçue, mais dont on voit l'importance actuellement. C'est qu'il a donné un taux de rotation des taches solaires, des différentes taches solaires. Il a dit les taches solaires, elles tournent avec une période qui s'étale entre 25 jours et 30 jours, ou 26 jours et 30 jours. Et il a fait la distinction déjà entre des taches qui se trouvent proches de l'équateur et qui ont l'air de tourner un petit peu plus rapidement que des taches qui se situent, disons, à 30 degrés de l'équateur et qui ont l'air de tourner un petit peu moins rapidement. C'est ce que nous appelons, en termes savants, la rotation différentielle du Soleil.
Oui.
Or, on sait que c'est dans la rotation différentielle que se retrouve le siège ou le moteur qui alimente le cycle du Soleil, que l'on évoquera tout à l'heure. Et c'est probablement les taches qui nous fournissent le meilleur indicateur de cette rotation différentielle et aussi de la variabilité de notre Soleil. Et si on peut prouver qu'il y a un lien entre la variabilité du Soleil et le climat, eh bien je crois que ce sont les taches qui détiennent la clé du mystère. Alors, je voudrais aussi dire que le pauvre père Scheiner, à l'époque, il appartenait donc à l'ordre des Jésuites et qu'il était certainement obligé de ne pas se laisser égarer, de ne pas aller trop loin dans l'interprétation, ce qui n'était pas le cas de Galilée. Cela dit, j'ai eu bien sûr une grande admiration pour Galilée. Enfin, je voulais un petit peu peut-être remettre les...
Réhabiliter le père Scheiner.
Vous avez tout à fait raison.
Alors, on pourrait peut-être évoquer les différentes...
Les grandes étapes de
découverte, voilà. En ce qui concerne les taches solaires.
Après 1610. Et la suite.
Alors moi, ma période préférée, c'est évidemment la deuxième partie du XVIIe siècle, parce que c'est là que... Colbert, qui a voulu absolument renforcer le pouvoir de Louis XIV, a fondé donc l'Académie des sciences en 1666, laquelle s'est empressée de fonder l'Observatoire de Paris.
Alors, et de faire venir un astronome célèbre italien.
Cassini, et de faire travailler, disons, dans des conditions plus institutionnelles, l'abbé Picard, qui est aussi un religieux, et dont l'œuvre est, je trouve, absolument méconnue. C'est quelqu'un d'absolument génial, qui a fait des tas de découvertes. Bon, il a probablement bénéficié des apports de Galilée, de Scheiner et de ses collègues européens. Mais enfin, c'est quelqu'un qui est à l'origine de tas de découvertes, qui est très modeste. Donc la plupart de ses découvertes sont attribuées à d'autres, mais ce sont ses élèves. Et entre autres, il a mis au point des méthodes de mesure probablement beaucoup plus précise et performante que Galilée. Et ils nous ont laissé une cinquantaine d'années d'archives, d'observations, qui sont archivées à l'Observatoire de Paris, et qu'on a redécouvertes il y a quelques années, et qui nous donnent une information absolument précieuse et unique, et j'insiste très fortement sur ce point,
unique
de
au
l'histoire
monde, bien
du
sûr.
Soleil, disons dans la deuxième partie du XVIIe siècle. Alors c'est d'autant plus intéressant que c'est dans cette deuxième partie du XVIIe siècle, qui a eu un phénomène climatique qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui a eu son paroxysme là.
Donc, un petit refroidissement,
d'où l'intérêt effectivement d'étudier ces tâches et de voir s'il y a une corrélation, ou si c'est simplement une coïncidence entre les deux phénomènes, anomalie solaire ou propriété particulière des tâches à cette époque et climat. Alors donc, on est en 1666, 1667, l'Observatoire de Paris est créé, est fondé, et l'abbé Picard observe quasiment quotidiennement le Soleil, comme l'a fait Galilée autrefois, quelques décennies auparavant. Et il remarque que, depuis quelque temps, le Soleil ne montre plus aucune tache. Alors ça, c'est un phénomène nouveau, parce que tous les observateurs de l'époque, de la première moitié du XVIIe siècle, s'étaient tellement habitués à observer des taches qu'on ne signalait même plus l'apparition de taches tant le phénomène était banal. Et dès l'année, je crois, 1671-1672, Cassini et Picard signalent à l'Académie des sciences que le Soleil ne montre plus l'activité qu'il avait l'habitude de montrer. Et de temps à autre, Cassini ou Picard ou les deux, font une petite note, ou une petite note à l'Académie des sciences en disant « on a vu une tache ». Depuis 11 ans, on n'en avait pas vu une, ou depuis 10 ans, on n'en avait pas vu une. D'accord, le phénomène est peut-être banal, mais enfin, il a été interrompu pendant si longtemps que, pour nous, ça vaut la peine d'être signalé.
Significatif.
Donc, à cette époque-là, les gens se rendent compte qu'il y a un phénomène inhabituel. Les taches qu'on avait l'habitude de voir chaque année disparaissent. Ce n'est qu'environ... Mais alors, je voudrais aussi signaler que Cassini... à cette époque, signale que les taches sont des impuretés que l'on voit à la surface du Soleil, mais qu'elles reflètent des impuretés profondes, et que probablement, lorsque les taches disparaissent, c'est que l'impureté plonge à l'intérieur du Soleil. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui, pour la théorie moderne, est extrêmement important,
bien
parce
sûr.
Que cette disparition des taches est effectivement pas un nuage dans l'atmosphère du Soleil qui disparaît, mais c'est vraiment un phénomène inhérent à l'intérieur du Soleil.
Donc l'idée est acquise, donc maintenant, l'idée galiléenne est acquise que ce sont des phénomènes qui sont bien dans le Soleil,
voilà.
Et qu'en plus, ces phénomènes de surface du Soleil sont un indice, un traceur, un signe de l'activité interne.
De l'activité interne.
Oui.
Il aura fallu bien des siècles pour convaincre...
Pour s'en convaincre, bien sûr.
Exactement. Alors après, je dirais qu'au XVIIIe siècle, il y a tellement de choses à faire en astronomie, d'une manière générale, qu'il n'y a pas tellement d'observations significatives, particulièrement nouvelles, de la surface du Soleil. Il faut arriver au XIXe siècle, ou alors là, on a une série d'observations qui, à mon sens, sont très importantes. Il faut commencer d'abord par Spörer, qui est un astronome amateur allemand, qui observe régulièrement le Soleil et qui remarque que les taches solaires sont un phénomène périodique. Tous les 11 ans, on a une recrudescence de taches. Et ces taches, 5 ans après, tombent à un minimum.
Le cycle de 11 ans, le célèbre cycle de 11 ans du Soleil.
Cycle de 11 ans qui est très important.
Il est le premier à l'avoir observé.
Il le signale à ses collègues astronomes professionnels, entre autres un monsieur Wolf à Zurich, qui regarde évidemment tous les enregistrements dont il disposait et tous les enregistrements antérieurs. Il reconstitue ce qui est maintenant bien connu de tout le monde, c'est le nombre de taches au cours du temps. Donc il arrive à remonter à peu près jusqu'à Galilée. Ouais. Alors on voit tout de suite, effectivement, que les taches solaires sont un très bon indicateur de ce cycle. Et on voit qu'elle présente une recrudescence tous les 11 ans. On voit que la durée de chaque cycle est très variable d'un cycle à l'autre, que l'intensité d'un cycle est très variable d'un cycle à l'autre, le nombre de taches est très variable. Et on voit effectivement que pendant cette période du XVIIe siècle, entre, disons, 1645 et 1705, il n'y a eu très très peu de taches à la surface du Soleil.
Galilée a été vraiment, en somme servi par la chance, si je comprends bien. Il est tombé dans une période de grande activité solaire.
Absolument. Alors, de grande activité, on y reviendra. Peut-être pas si grande activité, mais enfin, il y avait...
Après une bonne période.
Ça faisait
d'activité.
Partie des cycles, probablement, des cycles moyens.
Moyen, oui, c'était en tout cas pas le calme plat.
Voilà, c'était pas le calme plat.
Oui. Dans une période creuse, il n'aurait rien vu non plus.
Et à peu près à la même époque, au milieu du 19e siècle, Carrington regarde de façon systématique la rotation des taches et il établit une courbe de rotation différentielle du Soleil. C'est-à-dire, on détermine le taux de rotation de l'équateur et le taux de rotation des latitudes
plus élevées. Bien sûr.
À la fin du 19e siècle arrive M. Maunder, qui est un astronome royal anglais, et qui regarde aussi, cette fois, la distribution des taches. Comment les taches apparaissent-elles au cours d'un cycle de 11 ans? Est-ce qu'elles apparaissent à des latitudes privilégiées? Et c'est ce qu'il montre. Il montre qu'effectivement, au début d'un cycle de 11 ans, les taches apparaissent en priorité vers les latitudes moyennes, 30 degrés à peu près. Elles vont vivre, elles vont mourir, mais au fur et à mesure que les années passent, il y aura une certaine migration dans l'apparition des taches, migration qui se fait vers l'équateur. Et il donne au déploiement de l'activité des taches, de la distribution des taches, ce joli nom de diagramme papillon, parce qu'effectivement, si vous regardez la distribution des taches en fonction du temps, vous avez l'impression de voir les ailes d'un papillon.
S'ouvrir, oui.
Alors au début du XXe siècle, c'est l'avènement de la spectroscopie, Et on est capable de regarder différentes couleurs du spectre lumineux que l'on reçoit. Et M. Hale, aux États-Unis, met un polariseur derrière son spectrographe pour essayer de mesurer le champ magnétique. Alors, je crois que c'est un petit peu compliqué d'expliquer les mesures de champ magnétique, mais il est capable de voir que dans ces taches sont le siège d'un champ magnétique très intense, 3 à 4 000 Gauss. Alors qu'à la surface du Soleil, en dehors des taches, le champ magnétique est pratiquement est très très faible, quelques Gauss. Alors là, c'est très important et ça permet aux astrophysiciens de l'époque d'imaginer les raisons pour lesquelles ces taches sont sombres, pour lesquelles ces taches sont impures. Alors tout de suite, bien sûr, c'est le rôle du champ magnétique. Alors pourquoi les taches sont-elles sombres? Eh bien, c'est peut-être là qu'il faut faire un petit tour de la cartographie, de la carte d'identité du Soleil. La surface du Soleil est environ à 6000 degrés. Et le champ magnétique des taches joue le rôle d'isolant thermique. Il empêche le transport d'énergie et il bloque un petit peu l'énergie. Donc les taches sont plus sombres simplement parce qu'elles sont un petit peu plus froides, de 1000 à 1500 degrés.
Est-ce qu'il faut maintenant aussi peut-être décrire l'un des grands processus, l'une des grandes caractéristiques de cette étoile, la seule que l'on puisse, notre étoile Soleil, la seule que l'on puisse observer de près, si je puis dire. Il faut imaginer, bien sûr, c'est fait d'hydrogène et d'hélium, c'est une énorme machine atomique à faire de la fusion nucléaire en cascade. Et il faut imaginer un noyau. Et puis aussi toute une partie du Soleil qui est constituée de grandes cellules qu'on appelle de convection. C'est un petit peu l'analogue de l'eau qui boue avec ces tourbillons très particuliers que sont ces cellules de convection. Il y a une chose qui frappe toujours le profane que je suis, c'est l'extraordinaire grandeur de ces cellules de convection.
Alors, je crois que là, vous avez évoqué tout un tas
de choses.
De choses. J'ai été vite. Astrophysiques. Alors, on rappelle effectivement que le Soleil est en train de brûler son hydrogène, essentiellement. Alors, quatre atomes d'hydrogène brûlent, forment un atome d'hélium. L'atome d'hélium est plus léger que les quatre atomes d'hydrogène, donc de l'énergie est libérée. Et l'énergie va être, en somme, convoyée de l'intérieur à la surface.
Bien sûr.
Et sur un trajet d'environ 750 000 km. Alors, au début, l'énergie est assez bien rayonnée, mais au fur et à mesure que le rayonnement s'achemine vers la surface, ce rayonnement s'effectue difficilement, ce transfert s'effectue difficilement et toute la matière est obligée de se mettre en mouvement sur, disons, les 200 000 km avant le bord du Soleil, le bord visible du Soleil.
Ouais.
Effectivement, on a affaire à tout un tas de mouvements de toutes sortes. Alors, vous avez des mouvements de très petite taille, 1000 km, que l'on voit en surface et que les amateurs connaissent bien, surtout ceux qui ont eu la chance d'aller observer au Pic du Midi. On a une très, très bonne qualité d'image, la meilleure du monde, il faut le dire.
Disons-le.
Et puis, il y a des mouvements convectifs, des grandes cellules de taille intermédiaire que l'on détecte de façon un petit peu indirecte. Et puis, il y a ces grands rouleaux de convection que l'on a découvert à Meudon et qui là ont été découverts grâce aux taches d'ailleurs,
oui.
Mais de façon tout à fait indirecte. Donc, mais là encore, les taches ont été notre meilleur support, notre meilleur outil.
Elisabeth Ribes, est-ce que dans la recherche actuelle, on comprend, on maîtrise, je dis de la façon la plus générale, on comprend toutes les périodes, toutes les périodes et les processus de répétition de ces taches solaires, de la mécanique qui est sous-jacente?
Écoutez, non, c'est encore un problème qui est extrêmement compliqué. On essaye actuellement, je crois, de comprendre ce cycle de 11 ans. Il est maintenant bien établi. On a un certain nombre, ce que nous appelons dans notre jargon des indicateurs astronomiques pour voir que ce cycle solaire existe et qu'il a existé, je dirais, bien au-delà de la période astronomique galiléenne. On a des indicateurs dans les composés cosmogéniques des indicateurs qui sont vraiment soumis au cycle solaire et qu'on retrouve dans les carottes glaciaires et que l'on retrouve dans la cellulose des arbres. Et ces indicateurs retracent très bien l'histoire du champ magnétique solaire et on voit cette répétition du cycle de 11 ans, disons sur plusieurs millénaires. Donc là, il n'y a pas de doute, le cycle de 11 ans
existe
et il a existé depuis certainement bien, bien longtemps sur le Soleil. Alors ce cycle de 11 ans, comme on l'a vu avec les tâches, il n'est pas du tout régulier. Quelquefois, ça peut être 10 ans, 12 ans. Et puis, sur ces cycles de, disons, de 11 ans en moyenne, se superposent des plus grands cycles de 80 ans. Par exemple, au début du XXe siècle, on a eu deux cycles de 11 ans qui ont été particulièrement faibles. Probablement, à mon sens, du même niveau d'amplitude que les cycles que Galilée a dû observer. Et puis, au XIXe siècle et actuellement, on a des cycles extrêmement actifs. Il semblerait qu'au XIIe siècle, on ait eu aussi des cycles solaires très actifs. Mais là, on les a mis en évidence donc, par les composés cosmogéniques. On n'a pas pu les mettre en évidence vraiment par des phénomènes astronomiques. Donc, on essaye maintenant de comprendre ce cycle de 11 ans. Et il semblerait, dans les modèles théoriques actuels, que la source du champ magnétique... Le champ magnétique prend sa source, prend sa source dans la rotation qui n'est pas uniforme. Le Soleil ne tourne pas comme un corps rigide, comme on l'a vu grâce aux tâches, entre autres. Il tourne comme un corps différentiel, l'équateur tournant plus rapidement que les pôles. Et c'est cette déformation de la rotation qui alimente probablement le champ magnétique.
Je vais profiter de l'occasion qui m'est offerte, à des conditions d'ailleurs extrêmement avantageuses, pour vous dire un nocturne. Il y a une raison, évidemment, à ce nocturne. Il n'est pas un nocturne sans raison, et la raison est la suivante. Depuis que le regretté Frédéric Chopin a été prématurément enlevé à l'affection des siens et à la considération des commerçants de son quartier, on ne fait, pour ainsi dire, plus de nocturnes en France. C'est extrêmement grave, car un pays sans nocturne, qu'on le veuille ou non, est, un jour ou l'autre, irrémédiablement voué à l'obscurantisme le plus total. C'est pourquoi, pour lutter contre cette situation absolument regrettable, j'ai donc écrit ce nocturne que je vais vous dire et que j'ai intitulé après beaucoup d'hésitations d'ailleurs, nocturne.
Quelle autre considération encore sur les cycles solaires, Elisabeth Rive ? Petite parenthèse, avant que vous me répondiez, je voudrais simplement rappeler d'un mot. J'ai été vous rendre visite à Meudon l'autre jour, et là encore, il y a la joie. Vous devriez faire cette visite, Maurice Clavelin, parce qu'il y a un effet d'émotion. Il y a une très jolie tour solaire à Meudon, importante évidemment pour l'observation. Et là, par chance... nous avons ouvert l'héliographe et d'un seul coup, des magnifiques taches solaires nous sont apparues. Il n'y avait pas de problème, elles étaient là, on les a vues. Donc, je ferme cette parenthèse d'émotion astrophysicienne. Et je vous répète ma question, Elisabeth Rive. Qu'est-ce qu'il faut rajouter encore dans notre compréhension de ce cycle solaire ?
Eh bien, je crois qu'effectivement, les taches solaires nous permettent de façon extrêmement précise, grâce à la technologie actuelle, traitement d'images... reconnaissance de forme, de suivre ces objets avec une précision inégalée et de reconstituer cette rotation différentielle à la surface du Soleil. Et on a vu que cette rotation différentielle varie au cours d'un cycle de 11 ans. On a pu reconstituer ce qu'elle était au moment du minimum de Mönder. Et ce qu'on voit, c'est que les changements de la rotation de surface du Soleil sont absolument corrélés avec les changements d'énergie que le Soleil envoie à la surface de la Terre.
Alors,
on a donc pu voir qu'au moment au XVIIe siècle, il y a eu un transfert d'énergie entre l'énergie de rotation du Soleil, qui était très différente de ce qu'elle est maintenant, au détriment de l'énergie thermique que le Soleil a envoyée. C'est-à-dire qu'on peut estimer la quantité d'énergie que le Soleil a envoyée au XVIIe siècle, sur Terre, et on voit qu'elle était d'environ 1% de moins que ce qu'elle
inférieure,
est maintenant,
oui.
Inférieure à ce qu'elle est maintenant. Ça correspond pour les météorologues à environ 1 watt par mètre carré au sommet de l'atmosphère. Et avec 1 watt par mètre carré, les météorologues sont tout à fait capables de produire un petit âge glaciaire tel qu'on l'a connu.
Et au XVIIe, ça veut dire beaucoup de... Ça veut dire des hivers très très froids.
Exactement.
Et des périodes pluvieuses très très longues en été. Donc, il a fait froid.
Il a fait froid. Inversement, actuellement, on peut se demander pourquoi, depuis un siècle, la température globale augmente à la surface de la Terre. Alors évidemment, l'effet de serre joue certainement un rôle, mais
en regardant simplement la rotation des taches, on peut estimer l'énergie lumineuse qui correspond à cette énergie des taches, et on voit qu'on peut expliquer une augmentation à la surface de la Terre de peut-être 1 watt par mètre carré. Ouais. Ce qui serait suffisant, à mon sens, mais soyons prudents, pour expliquer le réchauffement global actuel.
Oui, la grande question du réchauffement actuel.
Ce qui ne veut pas dire que l'effet de serre n'est pas en train d'agir et ne se joindra pas à l'activité naturelle du Soleil. Mais pour l'instant, je crois qu'il est prudent et correct, scientifiquement parlant, de dire qu'on n'a pas prouvé que l'effet de serre était responsable du réchauffement global.
Et ça, c'est une idée qui n'est pas universellement admise, Elisabeth Ribe. D'abord, cette corrélation avec l'activité du Soleil et le rayonnement thermique qu'elle donne à la Terre. Écoutez, c'est curieux, on a envie de dire tout de suite, bravo, ça marche.
Depuis un siècle, ça n'est pas moi qui ai commencé à chercher, je peux bien vous le dire.
Évidemment.
Avec toute modestie ou sans modestie. Depuis plus d'un siècle, les gens ont essayé d'établir des corrélations entre ces indicateurs astronomiques et les indicateurs climatiques ou atmosphériques. Le problème, c'est qu'il faut des séries très longues pour arriver à faire sortir des corrélations significatives, et on n'avait aucun mécanisme physique qui liait la variabilité du Soleil à la variabilité climatique. Et je crois que maintenant, eh bien, on a cette explication dont il faut bien dire qu'elle n'est qu'une théorie préliminaire. Il faudra beaucoup de travail pour l'améliorer. Mais je crois qu'on a trouvé la bonne physique et on est sur la bonne voie.
Moi, Clavelin, c'est à votre tour de vous voir attentif aux propos d'Elisabeth Ribe, de voir la postérité.
Beaucoup instruit, oui.
Et de voir encore la postérité donc, de cet âge solaire découvert par notre champion Galilée. Vous avez le sentiment donc maintenant de l'importance exacte au long du temps de cette découverte, non ?
Ah, bien sûr, tout ce que nous venons d'entendre montre que Galilée a enclenché là, un processus de recherche dont il était loin, bien sûr, de percevoir toutes les conséquences à longue échéance, mais dont l'usage qu'il en a fait lui-même, montre qu'il le plaçait fort haut dans parmi les phénomènes physiques observables, dignes d'intérêt et dont une connaissance approfondie s'imposait à coup sûr, n'est-ce pas ? Alors certainement, tout cela le réjouirait beaucoup.
Est-ce que, Elisabeth Ribe, est-ce que vous avez utilisé, évidemment, les archives de Picard et de ses relevés, est-ce que, c'est ma dernière question, est-ce que vous avez utilisé d'autres observations systématiques du Soleil ?
Eh bien, bien sûr, nous utilisons les observations systématiques de l'Observatoire de Paris à Meudon, qui commence depuis 1917.
Et qui, depuis 1917, ont été faites continuellement.
Elles sont faites continuellement, tous les jours de semaine, les week-ends et bien sûr les périodes de fêtes. Elles continuent avec beaucoup de difficultés et beaucoup de mérite de la part des gens qui les font.
Oui.
Et j'espère justement que tout ce qu'on a appris grâce à Galilée et à Jean Picard ne tombera pas dans l'oubli.
Rapidement, je voudrais faire une petite remarque en donnant la bibliographie qui peut concerner cette émission. Elle porte bien sûr sur l'œuvre de Galilée. C'est de la situation absolument scandaleuse qui est faite dans l'édition française concernant la lecture que l'on peut faire dans notre langue de Galilée. Puisque vous avez eu le souci et le grand soin de faire je vous le dis comme je le pense, une très très belle traduction, Maurice Clavelin, du discours concernant Deux sciences nouvelles qui a été publié en son temps chez Armand Collin,
oui,
qu'on ne trouve plus. Vous avez eu aussi le souci de faire un très grand livre qui s'appelle La philosophie naturelle de Galilée, toujours chez le même éditeur, dont le sous-titre est Essai sur les origines et la formation de la mécanique classique, et qui sont des ouvrages non seulement d'intérêt nationaux, mais d'intérêt internationaux pour les études galiléennes, et qu'il est absolument strictement impossible de les lire. Qu'il n'y a pas de traduction complète du dialogue concernant les deux grands systèmes. Il y a simplement apparaître à nouveau chez Hermann, dans un choix de texte, la première journée de ces dialogues. Alors je vais quand même donner quelques titres de livres concernant Galilée cette fois, mais qui ne sont pas de Galilée. Un Galilée qu'on peut lire très vite, qui s'appelle Galilée, le messager des étoiles, qu'on doit à Jean-Pierre Maury et qui est édité aux éditions La Découverte. On peut trouver en bibliothèque des extraits du Sidereus Nuncius, le messager céleste que l'on doit à Émile Namer. Et c'est pratiquement tout. Il y a un livre chez Drac, publié au Cerf sur l'affaire Galilée. Mais je trouve ça parfaitement scandaleux.
Oui, c'est tout à fait surprenant, mais enfin, c'est ainsi. Malheureusement, nous n'y pouvons rien. Il semble que les impératifs commerciaux, financiers ici soient tels que...
Eh oui, c'est ainsi. En tout cas, je remercie Elisabeth Rib et Maurice Clavelin pour la participation à cette émission. C'était Les Taches solaires de Galilée à aujourd'hui. Réalisation Brigitte Rioux, prise de son Jean Prisot.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 mars 1992.